Donc nous avons une première leçon où il s'agissait d'introduire surtout la notion de mal physique et mal moral. Cette distinction qui me semble très importante et que j'ai essayé d'introduire à partir du catéchisme de l'Église catholique. Voilà, alors nous avons ensuite une seconde leçon avec la Genèse, chapitre 2 et 3 de la Genèse, avec le second récit de la création d'Adam et Ève, différent du premier récit, et le péché, avec l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Alors maintenant, nous allons prendre encore un nouveau texte de l'Ancien Testament, dans Samuel, le deuxième livre de Samuel, les chapitres 11 et 12, le fameux péché d'Adam avec, David, avec Bethsabée. Alors c'est un morceau littéraire extrêmement intéressant. Et il y a beaucoup de choses à tirer de cet épisode. C'est un diptyque. Les chapitres 11 et 12 se répondent, hein, comme un diptyque, comme les deux pans d'un même tableau. Mais avant ça, une petite introduction. Penser théologiquement le péché exige un engagement existentiel. Alors Dieu au risque du mal, c'est la question de Dieu qui crée l'homme, l'humanité, en sachant peut-être que tout ne sera pas rose, que l'homme péchera, etc. Bon, alors nous réfléchissons sur cette création de Dieu. Mais nous réfléchissons à partir de notre point de vue, qui est le point de vue de l'humanité, qui n'est pas dans l'innocence première. Hein. La Bible, en tout cas, nous raconte un récit, il faudra voir comment interpréter ce récit, hein, d'un péché à l'origine qui a mis l'humanité dans une toute autre attitude vis-à-vis de sa propre création, vis-à-vis de Dieu. Donc je dirais, quand nous essayons de réfléchir à Dieu qui est bon et au péché et au mal qui est dans le monde, il faut se rendre compte que nous sommes toujours immergés déjà dans ce monde où le mal se trouve et où le péché se trouve et nous en faisons partie. Nous ne sommes pas un spectateur qui pourrait se mettre à l'extérieur et dire « moi de toute façon je suis innocent, je suis objectif, je suis un peu comme Dieu et je regarde et je dis oui Dieu a fait ceci ou les hommes ont fait ça ». Non, on est toujours déjà dedans, hein? On est toujours impliqué. Et donc, pour essayer de comprendre, de réfléchir sur toutes ces choses-là en tenant compte de ce coefficient d'implication, parce que nous sommes pécheurs, vous et moi, et paraît-il, nous le sommes depuis Adam et Ève, on va y réfléchir, mais en tout cas, nous sommes pécheurs. Ça, c'est ce que la foi chrétienne affirme, et elle affirme surtout en disant que Jésus-Christ est venu nous sauver. Ça, en fait, ça, c'est l'affirmation principale de notre péché. C'est que Jésus est venu nous en sauver. L'accusation de Dieu n'est pas « vous êtes des pécheurs, et maintenant débrouillez-vous, bien vous êtes des pécheurs et ça ne va pas du tout ». Non, non. Nous le savons à partir du Christ qui nous en a sauvés. D'une certaine manière, c'est le Christ qui nous révèle notre péché en nous en sauvant. Mais donc, il faut réfléchir à cette implication, notre propre implication dans le mal et le péché du monde. Il faut y réfléchir, non pas comme un spectateur extérieur, objectif, hein, mais comme quelqu'un qui est déjà impliqué. Alors, pour s'y sentir déjà impliqué, il faut avoir réfléchi à tout ça et avoir une certaine attitude de cœur. Et je dirais cette attitude de cœur, au fond, c'est une attitude de conversion, de sentir que, la conversion nous est nécessaire et que la conversion révèle quelque chose de notre identité. Donc nous sommes déjà toujours sous le coup du péché, d'une certaine manière, celui des autres, celui d'Adam et Ève, le nôtre, etc. Bon, on est dans ce réseau de péché, et nous ne pouvons en prendre la mesure quand nous sentons nous-mêmes impliqués existentiellement dans ce péché. Alors comment fait-on pour se sentir impliqué dans ce péché? Eh bien, justement, l'Écriture sainte nous propose des récits dans lesquels qui nous font avancer sur cette question. Sinon, on regarde toujours les choses un peu de loin, avec, un peu des auto-justifications, des rationalisations, des projections, des réductionnismes de toutes sortes, hein, mais on ne se sent comme pas tout à fait concerné. Comment faire pour se sentir concerné? Alors, le but n'est pas de se sentir concerné pour le plaisir d'être culpabilisé. C'est pas ça. C'est pour la grandeur de se voir tel qu'on est, hein, pour découvrir ce que l'on est vraiment, pour ne pas rester aveugle sur ce que nous sommes. C'est pour ça que l'Écriture nous invite à ouvrir les yeux sur notre péché. C'est pas pour que nous soyons dans une culpabilisation et nous morfondre dans un masochisme qui dit « mea culpa ». Non, non, c'est pour que nous voyons qui nous sommes et qui Dieu nous appelle à être. Et comment Dieu nous sauve et nous grandit. Mais ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on entre soi-même dans cette histoire, et notamment par la conversion, qui est quand même un premier point très important. Alors, cette conversion, comment la susciter? Vous savez que saint Ignace de Loyola a inventé, imaginé, 4 semaines de retraite. La 2e, 3e et 4e semaine, c'est la méditation de la vie du Christ. La vie du Christ, 2e, la passion du Christ, 3e, et la résurrection, 4e semaine. Mais la première semaine, c'est quoi? C'est la méditation de notre péché. Parce que, d'une certaine manière, Ignace considère que la vie du Christ n'a vraiment de sens que lorsqu'on voit en quoi il nous sauve. Et pour voir en quoi il nous sauve, il faut soi-même avoir fait l'expérience quelque part que nous sommes perdus. Par nous-mêmes, nous n'avons pas les forces, hein, d'atteindre ce que nous voulons faire. Nous avons bien sûr le désir de le faire, mais pas la force. Et le Christ nous sauve de cela. Mais cette première semaine est très difficile, vous savez. Il n'y a personne qui entre dans cette première semaine en disant « tout ça c'est facile, oui je connais, oui je comprends, tout ça », mais au contraire, on passe une semaine là-dessus. On passe une semaine. Et l'accompagnateur spirituel, etc., a souvent fort à faire pour aider le retraitant à vraiment entrer personnellement dans cette démarche. Ça ne sert à rien de décrire le péché des autres de l'extérieur. Hein. À ce moment-là, on n'est pas impliqué et ça ne sert à rien de méditer la vie du Christ. Parce que le Christ nous sauve, oui, il sauve les autres, mais nous, on est plus ou moins bon, quoi, et parfait. Alors, il n'y a pas d'accroche. Hein. Si on ne sent pas le besoin de contempler notre Sauveur, alors on va lire des histoires, quoi. Mais on ne va pas être impliqué. Donc, en effet, cette implication de soi-même dans cette histoire du salut est très importante. Comment fait-on? Eh bien, la Bible nous propose des récits. Alors des récits, des récits, ce sont que des histoires, quoi. Ouais, c'est l'histoire de David, ça ne me concerne pas, ou bien quoi? Eh bien, ces récits sont construits de telle manière que nous sommes impliqués dedans. Et Dieu se révèle à travers ces récits, et révèle aussi ce que nous sommes, nous-mêmes, à travers ce récit. Il faut donc faire de la théologie narrative, ça veut dire lire l'histoire et se sentir impliqué soi-même dans cette histoire. Mais on ne peut pas simplement faire cela, il faut aussi ensuite réfléchir et essayer de conceptualiser un peu tout cela. Mais si on n'est que dans les concepts, alors on n'est pas très impliqué. Hein. Comme vous savez, les gens qui sont très rationnels, ils prennent distance. Donc c'est vrai qu'à ce moment, il faut réfléchir aux récits, mais les récits nous impliquent beaucoup plus que les concepts. Et donc il y a un va-et-vient, dirais-je, entre les concepts que nous allons développer avec saint Augustin, saint Thomas, etc., et les récits, les images, les symboles qui nous impliquent personnellement. Souvent les récits sont plus riches, les symboles sont trop secs. Mais s'il n'y a pas des concepts, les récits, au fond, ne sont que des faits divers, quoi. Hein. C'est banal, c'est des anecdotes comme d'autres. Il n'y a pas de raison de réfléchir à ça plutôt qu'à autre chose. Eh bien non, le concept vous nous fait voir la valeur structurante du récit. Et les récits viennent remplir les concepts d'une richesse, d'un poids, d'une substance, dirais-je. Et donc, il faut faire un va-et-vient entre la réflexion plutôt conceptuelle, peut-être, et se laisser impliquer par le récit existentiel. Comme dirait Kant, hein, les catégories sans la sensibilité, les intuitions de la sensibilité sont vides, mais les intuitions de la sensibilité sans les catégories sont aveugles. de pures sensations, de pures histoires, ça ne veut rien dire. Hein. Avec les catégories, ces histoires prennent consistance, et sans ces récits, les catégories ou les concepts sont vides, c'est un peu de la mécanique, et puis c'est tout. Voilà, donc l'idée, c'est de lire ce récit dans cette optique. Je vais lire le texte, qui est divisé, comme vous voyez, en 5 paragraphes. Alors, selon les catégories de la poétique d'Aristote, on peut reconnaître dans ce texte l'exposition, la complication, le climax, le dénouement et l'épilogue. Ce ne sont pas des catégories que je colle sur le récit parce que, non, mais en fait, tout récit bien fait se présente toujours comme ça. Vous-même, quand vous racontez une histoire, je suis sûr que vous racontez une blague, ben, si vous êtes un bon conteur de blagues, vous avez une petite technique. Il faut d'abord mettre les éléments en place, et puis alors il y a un truc qui est curieux, et puis les gens se demandent quoi, et puis il y a le dénouement, c'est tout. C'est tout à fait naturel, mais on voit que ce texte est très bien construit avec une exposition que je lis. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 5, « Au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab et avec lui sa garde et tout Israël. Ils massacrèrent les Ammonites et mirent le siège devant Rabba. Cependant, David restait à Jérusalem. » Il ne fait plus la guerre, il est déjà un peu trop vieux, il a 40 ans. Enfin voilà, il envoie les autres faire la guerre. Il arriva que vers le soir, David s'étant levé de sa couche et se promenant sur la terrasse du palais, aperçut de la terrasse une femme qui se baignait. Celle-ci était très belle. David fit prendre des informations sur cette femme et on répondit, « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite. » Alors David envoya des émissaires et la fit chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier de ses règles. Puis elle retourna dans sa maison, la femme conçut, et elle envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Voilà, le décor est planté, les personnages sont là, l'affaire est en route. J'intitule donc ce paragraphe « Grandeur et faiblesse de l'homme ». Nous allons lire le texte comme la fois passée, en cherchant les indices littéraires, les petits mots là qui apportent quelque chose, sans se précipiter trop vite sur l'interprétation, remarquer des choses, et puis des choses qui interrogent, des choses qui disent, donnent un petit indice. Au moment de cet épisode, David n'est plus dans la fougue de la jeunesse. Il a certainement plus de 40 ans. Il a commencé sa carrière vers l'âge de 20 ans. Il a conquis Jérusalem vers l'âge de 30 ans. C'est une date facile à retenir. L'an 1000. L'an 1000, David a conquis cette place dont il a fait ensuite la ville de Jérusalem. Donc c'est un roi qui pendant 10 ans a dû lutter, fuir devant Saül. Mais depuis un certain temps, il est bien en place. Et quand on lit tout ce qui précède, c'est un homme absolument merveilleux. C'est sans doute le héros le plus attachant de l'Ancien Testament. Il rivalise un peu avec Joseph. Mais Joseph, c'est autre chose à la fin de la Genèse, mais David, c'est extraordinaire. Vous lisez ça, c'est mieux que du Shakespeare. C'est vraiment extraordinaire. Rappelons que très jeune, il fut appelé par Samuel de derrière le troupeau. Il était donc un petit berger. Et il arrivait à calmer la folie du roi. La folie du roi Saül, qui avait été un roi d'Israël, mais qui ensuite a perdu les pédales. David a cette audace contre Goliath, par exemple. Et en même temps, cette séduction, cette capacité de rencontrer les gens au niveau artistique, puisqu'il jouait de la cithare pour calmer la folie du roi. Il avait de grandes amitiés avec Jonathan, par exemple. Donc, il a épousé les deux filles du roi Saül. Hein. La première, bon, c'était pas tout à fait ça, mais enfin bon. Et alors, il aimait beaucoup Jonathan, le fils du roi Saül. Et on peut dire que David a fui devant la face de Saül pendant longtemps. Il a erré dans le désert. Par deux fois, il l'a eu sous la main. Il pouvait le tuer, mais il l'a épargné avec magnanimité. Et lorsque Saül, finalement, est tué avec son fils Jonathan, eh bien, David est extrêmement affecté. Vous connaissez peut-être ce passage où il pleure, Jonathan, Jonathan, par ta mort, je suis navré, j'ai le cœur serré à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais délicieusement cher, ton amitié m'était plus merveilleuse que l'amour des femmes. Beaucoup de psaumes sont attribués à David. David est intelligent, à la guerre comme à l'amour. Il est fort, il est tendre. Il sait se donner à l'autre avec un art consommé. Et le secret de sa joie, c'est que son cœur appartient entièrement au Seigneur. Il est le favori de Dieu, c'est absolument évident dans tous les récits. Et pourtant, nous voilà au chapitre 11 où on va raconter le péché de David. L'histoire d'un processus dans lequel David, qui a tout pour lui, hein, qui est l'élu du Seigneur, eh bien, va se laisser entraîner à partir de petites circonstances presque insignifiantes, à devenir déloyal, infidèle et traître, et meurtrier. Tout cela commence par un simple regard de curiosité. Un homme de son âge peut se le permettre, peut-être, hein ? Un peu de curiosité, oui, d'accord. Puis un peu d'imprudence, oui, prend des renseignements sur cette femme. Puis il la fait venir, et le reste s'enchaîne très rapidement. Le texte, d'ailleurs, est très rapide, hein, du regard à la femme enceinte, tout s'est passé comme dans un songe, et nous y voilà déjà. Que s'est-il passé? Comment est-ce que David a pu succomber aussi facilement? Oui, ben, il a envoyé les gens à la guerre, il n'était plus lui-même, hein, avec ses guerriers, avec son général Joab, le fameux Joab, hein, qui est le général en chef des armées de David, un homme... matter of fact, hein, très cruel, très objectif. Et voilà que la femme est enceinte. On peut dire peut-être que jusqu'ici, il y a de la faiblesse, de la sottise, de la vanité. Il se croyait peut-être supérieur à certaines futilités. Mais maintenant se pose le problème, que faire ? David a péché par adultère. Que faire? Comment résoudre cette situation? Complication. Je lis le texte. Je suis enceinte. Alors il semble que David n'a pas beaucoup réfléchi, parce que le verset suivant, c'est « Alors David expédia un messager à Joab. » Oups. Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Lorsqu'Uri fut arrivé auprès de lui, David demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis David dit à Uri, descends à ta maison et lave-toi les pieds. Uri sortit du palais, suivi d'un présent de la table royale. Pourquoi tout à coup ces cadeaux, ces présents? Mais Uri coucha à la porte du palais avec tous les gardes de son maître et ne descendit pas à sa maison. David avait donc imaginé un subterfuge pour cacher l'origine de cet enfant que portait Bathsabée. On en informa David. Uri, lui dit-on, n'est pas descendu dans sa maison. David demanda à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu à ta maison? Uri répondit à David, l'arche Israël et Juda logent sous les huttes. Mon maître Joab et la garde de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'irai à ma maison pour manger et boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Il y avait en effet une règle qui voulait que les guerriers n'avaient pas de relations sexuelles pendant la guerre. Avec personne. C'était une manière de limiter un peu les dégâts d'une guerre, hein, en imposant cette règle rituelle, religieuse. Hein. Mais Uri, le Hittite, donc c'est pas un Israélite, mais il a épousé une Israélite, eh bien il veut garder cette règle. Il dit d'ailleurs, hein, aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu vis toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Il veut observer le rituel, la loi. Alors j'ai mis quelques petits points parce qu'il y a une insistance de David, mais il ne réussit pas. Le matin suivant, donc c'est en fait le troisième jour, David écrivit une lettre à Joab et la fit porter par Uri. Il écrivait dans cette lettre, alors vous voyez la fourberie, hein, c'est Uri qui porte lui-même cette lettre dans laquelle il est écrit. Mettez Uri au plus fort de la mêlée, reculez derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, qui bloquait la ville, plaça Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient de vaillants guerriers. Les gens de la ville firent une sortie et, quelques petits points, Uri mourut aussi. Joab envoya David un compte-rendu de tous les détails du combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras fini de raconter au roi tous les détails du combat, si la colère du roi s'élève et qu'il te dise pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour livrer bataille, tu diras, ton serviteur Uri est mort lui aussi. Le messager partit, à son arrivée il rapporta à David tout le message dont Joab l'avait chargé. David s'emporta contre Joab et dit au messager, pourquoi vous êtes-vous approché du rempart de la ville pour livrer bataille? Le messager répondit à David, ton serviteur Uri est mort lui aussi. Alors David dit au messager, voilà ce que tu diras à Joab, que cette affaire ne t'affecte pas. L'épée dévore tantôt celui-ci et tantôt celui-là. Force ton attaque contre la ville et détruis-la. Ainsi tu lui rendras courage. Lorsque la femme d'Uri apprit que son époux Uri était mort, elle fit le deuil pour son mari. Quand le deuil fut achevé, David l'envoya chercher et la recueillit chez lui, et elle devint sa femme. Et lui, elle lui enfanta un fils. Mais l'action que David avait commise avait déplu à Yahvé. Voilà. Donc, c'est la complication, hein, une situation bien sûr pas facile à résoudre, mais on voit que David s'enferme de plus en plus en essayant de trouver une solution. Alors, comment cela se fait-il? David veut sauver trois valeurs. Il veut respecter, veut d'abord sauver la respectabilité du roi. Il ne faut pas que les gens sachent. Ensuite, il veut sauver la mère et l'enfant, qu'il veut vivant à tout prix. Il aurait pu abandonner la femme, en sachant qu'elle se serait fait tuer plutôt que de révéler le nom de l'homme qu'il avait mis enceinte. Mais il l'aime et ne veut pas la perdre. Donc, premièrement, respectabilité, deuxièmement, la vie de la mère et de l'enfant, et troisièmement, l'ami Uri, qu'il ne faut pas supprimer, bien sûr. Mais comment faire? Il passe d'une valeur à l'autre, sans vouloir renoncer à aucune. Respectabilité, la mère, Uri, comment combiner? Si je fais ça, alors je fais ça, mais non, il faut plutôt faire ça. Et c'est là que s'installe le désordre dans son esprit. Peut-être pour la première fois de sa vie, David a-t-il peur et se rend-il compte qu'il devra par contrainte abandonner une de ses valeurs. Une de ses trois valeurs. Espérons une seule. Pendant toute la nuit, il ne fait que ratiociner et le matin, c'est un homme fini. La décision est prise à l'improviste, il va sacrifier l'ami. En sacrifiant Uri, il pourra sauver la mère et sa propre respectabilité. Voilà ses calculs. Voilà ses calculs, et normalement, tout va marcher comme il faut. Hein. Il y aura une petite difficulté, parce que Uri ne voudra pas coucher avec sa femme, donc il faudra inventer un second petit subterfuge, hein, qui malheureusement mènera à la mort. Enfin, c'est pas ce qu'il voulait. Hein, il voulait simplement cacher la paternité de cet enfant en invitant Uri, eh bien, à avoir des relations avec sa femme à cette époque, de manière à ce qu'on puisse dire, ben voilà, c'est l'enfant que Uri a eu pendant cette trêve de la guerre. Hein. Donc, au fond, c'était très bien calculé. Hein. David avait bien fait ses calculs. Malheureusement, Uri, lui, il veut respecter la loi. Ah, il y a ces gens qui veulent respecter la loi. Hein. Ça embête beaucoup les pécheurs, évidemment, hein, parce que, bon, comment faire, hein. Et il dit d'ailleurs, Uri, hein, non, aussi vrai que Yahvé est vivant et que tu es vivant, il invoque Yahvé. Je ne ferai pas ça. Donc voilà, son premier subterfuge tombe à l'eau. Comment va-t-il faire? Ben, ce subterfuge aurait permis de sauver au moins la mère, la respectabilité du roi, et même l'ami. Mais maintenant, il faut sacrifier l'ami. Et donc, on va faire en sorte qu'il disparaisse. Nous voyons donc qu'il s'est mis lui-même le doigt dans l'engrenage. Au lieu de faire quoi? Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, pensait-il. Il devait faire ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Quand on commence par un petit péché, le regard, l'imprudence, et puis bon, ça devient un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis c'est l'adultère, puis c'est le mensonge, et puis c'est le meurtre. C'est de plus en plus grave. Lorsqu'on n'a pas le courage de couper court immédiatement, le péché risque de proliférer et de nous déborder. Adultère, mensonge, corruption de Joab, hein, parce qu'il ne dit pas exactement à Joab pourquoi il veut que Uri meure, mais Joab, qui est un fin politicien, stratagème, doit se deviner de quoi il s'agit. Et ça entraîne la mort de nombreux soldats, la mort d'Uri, le deuil de Bethsabée, et bientôt la mort de l'enfant, et donc un second deuil de Bethsabée. L'enchaînement s'est mis en route. Lui a échappé. C'est pas ce qu'il voulait. Non, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Hein. Il avait inventé autre chose. Mais il y a eu un petit obstacle, et donc il a fallu détourner l'obstacle, puis détourner un autre, et puis nous voilà, donc, maintenant, devant cette situation. Un roi, aimé de son peuple, on l'aimait beaucoup, hein. On l'adulait, on l'applaudissait. Saül a tué ses milliers, David a tué ses 10 000. Saül était bien jaloux, évidemment. Hein. Donc tout le monde l'aimait, il dansait, toutes les femmes chantaient la gloire de David. Si nous ne sommes pas attentifs dès le début, voilà que nous mettons le doigt dans l'engrenage. Si nous remettons à plus tard la réparation de nos fautes, même d'inadvertance, même celles dont ne sont pas tout à fait coupables, eh bien, nous risquons l'enchaînement du péché, la logique du péché, et la logique du péché, c'est la mort. Il y a une solidarité forcée de tout le monde autour de David, parce qu'il est le roi. Personne n'ose lui le contredire. Bethsabée n'a pas osé résister. Uri, lui, a résisté. Mais Joab exécute. Les autres sont mis dans la même solidarité forcée avec le mal. Vous voyez donc toutes sortes de serviteurs qui doivent exécuter les ordres du roi. Se doute-t-il de quoi il s'agit? Peut-être. De nouveau dans le texte ici, il y a des blancs, hein, il y a des choses que l'on ne dit pas tout à fait, on décrit de manière assez neutre tout ça. Hein. On ne dit pas qu'il est méchant, bien que les gens sont furieux, non, tout ça est décrit de manière assez neutre. Mais le roi, parce qu'il a cette place de roi, entraîne dans le mal qu'il a fait, entraîne toutes sortes de personnes qui peut-être se doutent de quelque chose, comme Joab ou comme des serviteurs, mais n'osent rien dire, et laisse faire. Alors tout au long de ce chapitre 11 que nous venons de lire, David est au centre. David est le centre de ce chapitre. Tous les mouvements des autres tournent autour de lui. Il donne des ordres, Il reçoit des rapports, il demande des comptes. Nous voyons là se dessiner donc une solidarité autour de lui, qui est une première personne. David est roi, il commande tout. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ?
Je vous ai dit d'observer les noms qui apparaissent dans le texte. Hein.
Est-ce que le nom de Yahvé apparaît dans ce chapitre 11 ?
Non.
Pas beaucoup.
À la fin.
C'est le dernier mot ?
À la fin.
Et puis alors il y a Uri qui dit non, non, au nom de Yahvé, je n'enfreindrai pas cette règle. Mais sinon, David c'est quand même l'élu du Seigneur. Ouais. C'est celui qui ne fait que parler de Dieu. Hein? Eh bien non, là il a tout à fait oublié que Dieu était là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Dire Seigneur, regarde dans quelle situation je me suis mis, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Tu vas m'aider, non ? Qu'est-ce que je dois faire ? Hein? Dis-moi. Il aurait pu crier vers le Seigneur. Eh bien non, 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 il veut tout régler par lui-même. Il est au centre, il se croit le roi, il l'est. Il se croit l'élu de Dieu, il l'est mais il l'a oublié. Il aurait pu éventuellement crier vers le Seigneur, hein, c'est ça exactement que sans doute qu'il aurait dû faire. Dire Seigneur, aide-moi, tu vois dans quel pétrin je me suis mis. Je ne sais pas ce que le Seigneur aurait fait, mais en tout cas, il écoute la prière de celui qui est dans la détresse, même s'il y est par sa faute. Il écoute la prière du pécheur. Mais le nom de Yahvé n'est apparu que tout à la fin, comme le dernier mot. Et il sera répété comme le premier mot du chapitre 12. Il vient clore ce passage où David est au centre. Et puis il ouvre le passage suivant, où David va devoir se décentrer complètement, comme nous allons le voir. Cette phrase inverse le mouvement. Donc nous avons, mais l'action de David, que David avait commise, avait déplu à Yahvé, c'est le seul jugement de valeur de tout le chapitre. Hein. Sinon on n'a jamais dit que c'était mal de donner une lettre, c'était mal de tuer Uri, on n'a rien dit. Le narrateur a décrit la situation, nous a laissé dans le vide. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? On ne sait pas. Alors on a respecté la loi. On a respecté la loi. Alors il y a plusieurs lois qui ont été respectées. La pureté rituelle de Bethsabée, la pureté rituelle de la guerre de Uri. David observe aussi le deuil de 7 jours, il ne va pas au-delà. Hein? Donc il respecte la règle vis-à-vis de Dieu. Oui, mais ils oublient fameusement la règle vis-à-vis des hommes. Hein? C'est-à-dire la convoitise, c'est-à-dire l'adultère, c'est-à-dire le mensonge et finalement le crime. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, ce qu'on a respecté, c'est les commandements de la première table de la loi, les commandements par rapport à Dieu. Et ce qu'on n'a pas respecté, c'est les commandements par rapport à l'homme, entre les êtres humains. Et ils ont été enfreints à partir du dernier vers le cinquième. La convoitise, puis l'adultère, puis le mensonge, puis le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Ils ont été enfreints. Donc on a bien respecté ça, on a oublié ici, au contraire, on les a enfreints les uns après les autres, en commençant par le dernier. Alors, Dieu conduit David au repentir. Est-ce que David va se repentir ? Oui. Est-ce qu'il va se repentir de son propre mouvement ? Non. En effet, David croit que l'affaire est réglée, personne ne sait rien, il a fait venir Bethsabée après son deuil, il l'a épousée. Voilà, il a consolé cette pauvre veuve hein, qui, par hasard, ben, a perdu son mari à la guerre. C'est quand même dommage, n'est-ce pas ? Ben, le roi fait cette grande, belle action hein, de l'accueillir chez lui et de lui proposer d'être la femme du roi. Action honorable, n'est-ce pas ? Alors tout le monde dit, oui, c'est vrai, hein, ce pauvre Uri est tombé à la guerre. Bon, ben, ça c'est la guerre, évidemment. Et sa femme est éplorée. Bon, elle est éplorée, ben, on comprend, oui. Mais regardez quelle chance elle a quand même, hein. Puisque David l'invite à être son épouse, en respectant la règle du deuil. Hein, les 10 jours au moins, on respecte. Mais cette histoire aurait pu rester enterrée dans la conscience de David comme un secret.
comme un secret jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au jugement dernier. Moi, je ne sais pas, ça nous arrive aussi d'enterrer certains de nos péchés jusqu'au jugement dernier. On verra bien ce qui se passera à ce moment-là. Il faudra se confesser avant, peut-être, mais enfin, pas tout de suite. On verra plus tard. On va réfléchir. Voilà, donc, pour David, les choses sont réglées. Personne ne sait rien. La respectabilité a été parfaitement sauvegardée. Et l'histoire peut continuer. Et l'histoire continue. Et voilà que David a une femme, hein, et elle va avoir un enfant, c'est bien naturel, bien, tout va bien. Mais l'action que David avait commise avait déplu à Yahvé. Yahvé envoya, premier mot du chapitre suivant, hein, dernier mot, vous voyez comme c'est construit, Yahvé envoya le prophète Nathan vers David. Il entra chez lui et lui dit, c'est un prophète. Il y avait deux hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail en très grande abondance, le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis, une seule petite qu'il avait achetée. David avait été pasteur. Hein. Il la nourrissait, elle grandissait avec lui, avec ses enfants, mangeant son pain, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein, c'était comme sa fille. Voilà la culture agraire, hein. Cette communion avec la nature. Un autre se présenta chez l'homme riche, qui épargna de prendre sur son petit ou gros bétail de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il vola la brebis de l'homme pauvre et la prêta pour son visiteur. David entra en grande colère contre cet homme et dit à Nathan, « Aussi vrai que Yahvé est vivant, l'homme qui a fait cela est passible de mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. » Nathan dit alors à David, « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Je t'ai oint comme roi d'Israël, je t'ai sauvé de la main de Saül. Je t'ai livré la maison de ton maître, j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. Pourquoi as-tu méprisé Yahvé ? Et fais ce qui lui déplaît. Maintenant l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite, pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle Yahvé, je vais de ta propre maison faire surgir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi, j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre Yahvé. » Alors Nathan dit à David, « De son côté, Yahvé pardonne ta faute. Tu ne mourras pas. Seulement parce que tu as outragé Yahvé en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. » Et Nathan s'en alla chez lui. Yahvé frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il tomba gravement malade. Voilà le climax. Donc, David est sorti d'une histoire très angoissante, chapitre 11. Il a cru s'en sortir avec le retour de Joab, ça n'a pas été possible, mais finalement, Uri est quand même le retour, pardon, de d'Uri. Finalement, ça s'est réglé avec la mort d'Uri. Tout est enterré. Personne ne sait rien. Bethsabée sait. Joab se doute de quelque chose. David garde ça pour lui. Il est sorti enfin de cette histoire angoissante et tout est bien réglé. Tant mieux. Pendant tout ce temps, il ne lui est jamais venu à l'esprit de dire « Seigneur, aide-moi à m'en sortir. » C'est ce que nous devons faire lorsque nous avons péché. Il n'a pas prononcé une seule fois le nom de Yahvé. Il estimait que ce problème était le sien. C'est mon problème, je vais le régler. Le péché l'a conduit à la confusion, à l'aridité, à la tristesse. si Dieu n'avait pas envoyé Nathan vers David, le roi serait resté convaincu de sa vie durant d'avoir choisi la seule voie possible.
Le Seigneur agit autrement. Comme David l'a dit lui-même, Dieu, psaume 51, Dieu, tu aimes la vérité au fond de l'être. Le récit continue donc avec une parabole qui peu à peu reconstruit la vérité dans le cœur de David. La narration est simple, un peu naïve, une brebis, etc. Bon.
Mais il le faut, c'est qu'elle décrit une situation extrême. Alors il faut être très simple lorsqu'on veut dire des choses extrêmes.
Mais remarquez bien que l'appel de Dieu n'interpelle pas David en tant que pécheur. Il interpelle David en tant que quoi ?
En tant que roi et juste juge. Il fait appel à ses bons côtés.
Il l'interpelle dans sa qualité de roi.
Et c'est justement pour cela que il parvient à percer la surdité du roi.
Parce qu'il s'adresse à David le juste, pas David le pécheur. David le juste, toi tu es juste David.
Eh bien, tranche ici une situation compliquée. Qu'est-ce que tu en penses ?
Et son sang ne fait qu'un tour, parce qu'il est juste, quelque part il est juste, oui. Et il dit, cet homme mérite la mort, il doit mourir.
Et donc Dieu nous convertit, oui, nous interpelle, mais pas en venant nous culpabiliser à mort sur telle et telle chose, mais en nous rappelant tout ce qu'il y a de bon en nous.
Et en mettant en avant toutes ces qualités que nous avons et qu'il fait croître et grandir, et à côté desquelles, eh bien justement, nos péchés doivent disparaître.
C'est évident. Yahvé, David pour la première fois prononce le nom de Yahvé. Aussi vrai que Yahvé est vivant, l'homme qui a fait cela est passible de mort. Il prononce bien son jugement et il l'appuie du nom de Dieu. Eh bien, tant mieux. Il a pris la défense du pauvre, de l'opprimé. Il a lui-même été pauvre, un pauvre berger.
Son autorité royale est liée à cette tâche de trancher en faveur de la justice. Il crie même son indignation, sa colère. Le moment est délicat.
Nathan aura-t-il le courage d'aller jusqu'au bout ? David a dit, cet homme est passible de mort.
Qu'est-ce que Nathan va dire maintenant ?
Nous savons qu'il faut du courage pour dire la vérité, même si cette vérité est évidente. Il faut du courage. Et Nathan saisit ce moment pour dire, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi.
Tu t'es condamné toi-même en disant que cet homme était passible de mort, c'est de toi qu'il s'agit. Et David, dans le récit, est fortement frappé et il confesse immédiatement son péché au prophète qui lui annonce le châtiment divin.
Au fond, peut-être que David n'attendait que cela pour reprendre sa stature spirituelle. Parce que, comme je vous ai dit, ce péché, et puis ce péché enterré, avait provoqué en lui une tristesse, une confusion, une aridité. Il se sentait loin du Seigneur. Malgré tout ce fond excellent qu'il y avait en lui, il n'arrivait plus à être en contact facile avec le Seigneur.
Et maintenant, il y est de manière douloureuse, mais il est de nouveau en contact avec le Seigneur. Peut-être que David n'attendait que cela pour reprendre sa vraie stature.
Il sort d'un cauchemar terrible, où il ne savait que faire, et puis où il croyait avoir résolu la question, mais il savait bien que ce n'était pas vrai. Et il se rend compte que la seule voie de sortie possible, et qui aurait pu se présenter dès le début, elle est là, évidemment. C'est de confesser son péché et de renoncer à cette respectabilité du roi.
Oui, oui, c'est bien la respectabilité, mais vous voyez qu'il a voulu la sauver, et finalement, eh bien, quand même, il doit avouer son péché, et cette respectabilité du roi est quand même entamée. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, dès le début,
renoncer à cette valeur, cette pseudo-valeur de la respectabilité de soi, pour couper court au péché, avouant sa faiblesse et essayant de redresser la situation comme il aurait pu, je ne sais pas comment. Dieu y aurait sans doute aidé. Voilà, les petits manquements peuvent nous conduire aux plus graves impasses si nous ne gardons pas constamment les yeux fixés sur le Seigneur. Seule la grâce de Dieu, en fait, continuellement invoquée et accueillie, peut nous remettre chaque jour dans la vérité. Je lis le passage suivant. David implora Dieu pour l'enfant. Il jeûnait strictement, rentrait chez lui et passait la nuit couché sur la terre nue. Un peu comme Uri là avant. Hein. Les dignitaires de sa maison se tenaient debout autour de lui pour le relever de terre, mais il refusa et ne prit avec eux aucune nourriture. Le septième jour, l'enfant mourut. Les officiers de David avaient peur de lui apprendre que l'enfant était mort. Ils se disaient en effet, quand l'enfant était vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il fera un malheur. David s'aperçut que les officiers chuchotaient entre eux et il comprit que l'enfant était mort. David demanda à ses officiers, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, oui. Une nouvelle fois, eh bien, il y a une situation irrémédiable. Uri est mort. L'enfant est mort. Bethsabée est une nouvelle fois en deuil. Elle est en deuil de l'enfant du meurtrier de son mari. On peut deviner évidemment sa peine. Évidemment, nous avons ici l'enfant. L'enfant qui meurt. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enfant qui est innocent, bien sûr, hein, qui finalement est celui qui, vers lequel se concentre tout le péché autour de lui et qui le paye de sa vie apparemment. Hein. Dieu dit, parce que tu as outragé Yahvé en cette affaire, parce que tu as outragé Yahvé, c'est bien toi la cause, ce n'est pas moi, hein, l'enfant qui t'est né mourra. La chaîne du mal se brise sur l'innocence. Voilà, ça c'est un mécanisme extrêmement courant, malheureusement, du mal. Hein. On fait le mal à un certain degré, etc. Et puis alors il se répercute, et puis c'est lorsqu'il bute contre quelqu'un qui ne sait pas le répercuter plus loin que le mal s'arrête. C'est toujours sur le plus petit, le plus faible, que on encaisse tout et on ne peut pas répondre. Jean Vanier, que vous connaissez, qui a fondé l'Arche, hein, raconte souvent cette histoire, hein, sur la question de la violence. Il dit, ben voilà, hein, le patron se fâche contre l'employé rentre chez lui, il se dispute avec sa femme. Ensuite, la femme, ben, elle s'en prend à son enfant, hein, et si l'enfant est trop petit, ben, il ne répond plus, il encaisse, mais s'il est encore un peu grand, ben, il va un peu torturer son chat, hein, puis voilà. Donc ça ira encore un peu plus loin, mais le mal retombe toujours sur quelqu'un de plus faible en cascade. Nous sommes solidaires dans le mal. Nous sommes solidaires dans le bien aussi. Mais dans le mal, nous sommes solidaires. Et ça, c'est une notion très importante du péché originel. Hein. On en reparlera. Mais le péché originel, c'est d'abord une question de solidarité. Est-ce que nous sommes solidaires les uns des autres ? Ben, nous le savons bien. Et celui qui dit, ah ben moi je ne suis pas, j'ai rien à voir avec Adam, hein, c'est Adam, c'est son problème, moi je ne suis pas solidaire de ce péché, eh bien d'une certaine manière, il prouve qu'il ne veut pas la solidarité, et ça aussi c'est un péché, hein, de ne pas assumer la solidarité que nous avons. Voilà, je crois que la solution, enfin c'est une espèce de d'actualisation, la solution de notre solidarité avec le mal, c'est de se désolidariser de la propagation du péché, de ne pas faire retomber sur d'autres le péché que nous-mêmes nous subissons, de rompre cette chaîne du mal
qui nous solidarise les uns avec les autres. Nous avons une solidarité avec les autres, alors qu'elle soit plutôt pour le bien que pour le mal. Arrêtons la propagation du mal sur nous-mêmes, essayons de répercuter du bien au lieu de répercuter du mal. Pas rendre le mal pour le mal, mais le bien pour le mal, ou au moins d'arrêter cette propagation du péché. Et je crois que l'exemple, évidemment, le plus frappant de cela, c'est le Christ. Le Christ lui-même en croix est celui qui a arrêté la propagation de la violence qui se faisait autour de lui et finalement sur lui. L'innocent inverse la logique de mort du péché. Le pécheur ordinaire l'a reconduit tout simplement un peu plus loin. Alors le tout dernier passage, l'épilogue. Donc voilà, l'enfant est mort, David a fait pénitence pour en espérant que Yahvé ne sauverait l'enfant. Mais l'enfant est mort, alors que fait David? Un paradoxe. Il se lève de terre, il se baigne, il se parfuma, changea de vêtements, entra dans le sanctuaire de Yahvé, se prosterna. Rentré chez lui, il demanda qu'on lui servît de la nourriture et il en mangea. Ses officiers lui dirent, « Que fais-tu là? Tant que l'enfant était vivant, tu as jeûné et pleuré. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu prends de la nourriture. » Il répondit, « Tant que l'enfant était vivant, j'ai jeûné et j'ai pleuré, car je me disais, qui sait? Yahvé aura peut-être pitié de moi et de l'enfant, et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Pourrais-je le faire revenir? C'est moi qui m'en vais le rejoindre. Mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola Bethsabée, sa femme, il alla vers elle et coucha avec elle. Elle conçut et mit au monde un fils auquel elle donna le nom de Salomon. Et Yahvé l'aima et le fit savoir par le prophète Nathan. Celui-ci le nomma Yedidia, suivant la parole du Seigneur, ça veut dire celui qui est aimé du Seigneur. Alors à propos de l'enfant, à propos de Bethsabée d'abord. Vous voyez apparaître le nom de Bethsabée ici. Quelle est la dernière fois où vous l'avez vu? Tout au début du récit. On en parle bien pendant le récit, mais on dit elle, ou bien on dit la femme du riz, mais on ne dit pas Bethsabée. Il y a une espèce d'inclusion, mais le nom propre de la femme n'est que tout au début et tout à la fin. Ce qui montre un petit peu aussi comment elle est instrumentalisée là-dedans. Elle n'a pas de personnalité mise en avant pour résister ou pour se plaindre, on ne connaît pas ses sentiments. Il me faudrait une nouvelle pile pour les 5 minutes qui me restent. Alors, l'enfant qui est mort, il n'a pas de nom. Vous voyez que l'enfant qui naît ensuite s'appelle Salomon. L'enfant qui est né a un nom, Salomon. L'enfant qui est mort n'a pas de nom. Or, dans la Bible, chaque fois qu'un enfant naît, on le nomme, on lui donne un nom. Il paraît que, je n'ai pas vérifié moi-même, mais j'ai lu qu'il y avait 33 naissances décrites. Et à chaque fois, on dit, on lui a donné un nom, ou bien on dit le nom qu'on lui a donné, en plus. Donc vraiment, lorsqu'il s'agit d'une naissance bien réelle, si j'ose dire, on nomme toujours l'enfant. Ici, l'enfant n'est pas nommé comme s'il avait été un peu, pas vraiment existé, un peu une espèce de rêve ou de cauchemar. David demande pardon et il entre dans une attitude de pénitence afin que Dieu sauve l'enfant. Et donc cette pénitence vient après la grâce du pardon. Alors je crois que c'est intéressant de noter, je l'ai mis sur votre feuille de route, la séquence pardon, pénitence, joie. Pardon, pénitence, joie. Le pardon, c'est une grâce de Dieu qui nous vient. Dieu nous pardonne, c'est quand nous sentons que Dieu nous pardonne, que nous sentons que nous avons été pécheurs, et c'est à ce moment-là que nous avons envie de faire pénitence. Nous ne faisons pas pénitence pour obtenir le pardon. Le pardon est gratuit. Mais nous faisons pénitence pour, d'une certaine manière, intégrer le pardon. Intégrer le pardon. Remercier si on veut, mais aussi intégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme se rendre compte qu'avant j'étais tout, avant j'étais au centre, avant j'étais gourmand, avant... quand on a reçu le pardon de tous ces péchés, on a envie de devenir plus modeste. On a envie de baisser un peu son orgueil. On sent qu'on a été dans l'inflation du moi, dans l'imprudence, dans la débauche. Et bien maintenant, on veut être dans la sobriété, dans l'humilité, dans le silence. C'est ça, en fait, la pénitence. La pénitence n'est pas quelque chose qu'on fait pour obtenir de Dieu le pardon. C'est, d'une certaine manière, une reconstruction de nous-mêmes, par action de grâce, mais aussi par, par sobriété de nous-mêmes, dans une nouvelle attitude où nous nous désolidarisons de notre péché et de ses conséquences. David est assez réaliste, hein, il dit, l'enfant est mort, hein, il ne reviendra pas, c'est plutôt moi qui irai vers lui. Hein. Très beau réalisme, hein. Je ne le ferai pas revenir, c'est moi qui irai le rejoindre. Et je crois que cette prise de parole sur son propre péché, cet aveu, et puis cette prise de parole sur son implication dans la mort de l'enfant, etc., eh bien, lui donne de clarifier sa pensée. Souvent, nous nous sentons coupables de choses que nous ne connaissons qu'à moitié, que nous avons un peu cachées, que nous avons, etc., que nous ne voulons pas réfléchir, que nous ne voulons pas dire à Dieu. Eh bien, justement, lorsqu'on passe dans ce processus d'accueillir la grâce du pardon, je crois que notre pensée se clarifie. Nous sommes davantage en paix, mais nous nommons nous-mêmes tels que nous sommes. Et je crois que, d'une certaine manière, ça nous grandit. Alors je termine en disant que cette histoire de David, Bethsabée, Salomon, etc., elle est tout à fait intégrée dans la vie de Jésus. Premier verset du premier livre du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc voilà, ce péché de David est tout à fait intégré dans la vie de Jésus. Jésus est un descendant de ce Salomon, de cette Bethsabée, etc. Donc Jésus n'a pas voulu échapper à la réalité du péché des hommes. Au contraire, il se met dans cette généalogie. Et donc, comme je vous dis, premier verset du Nouveau Testament, David est signalé comme étant le père de la généalogie de Jésus. La femme du riz est mentionnée elle-même au verset 6, premier chapitre, verset 6. Jésus-Christ a voulu naître de cette famille où le péché a fleuri en grâce et en pardon. Voilà, il est curieux que l'homme parle toujours de son péché au passé. David n'a pas pu devancer son péché parce qu'il ne s'est pas présenté assez rapidement devant le Seigneur. Alors il a laissé le péché prendre de l'ampleur. Et puis, c'est à la fin qu'il doit parler du péché qu'il a commis. Et d'une certaine manière, c'est à ce moment-là qu'il prend entièrement conscience de son péché. Avant ça, il l'avait minimisé, rationalisé, raison d'état et tout ce qu'on veut, mais maintenant il prend l'ampleur de son péché. Notre conception du temps, c'est Martini qui dit cela, Martini dont je m'inspire là pour toute cette leçon, notre conception du temps change lorsque nous vivons dans le pardon, dans la grâce du pardon. Nous n'avons pas des casseroles derrière nous que nous essayons plus ou moins de cacher. Nous vivons d'une autre manière le temps. Notre temps, souvent replié sur un présent ennuyeux, difficile, dégoûtant, s'élargit au moment où nous prenons conscience de notre désordre en une conscience exhaustive du réel, dit Martini. Nous avons une vraie conscience de ce qui est et de ce que nous sommes et de notre place dans le présent, le passé et l'avenir. Le passé n'est jamais à oublier, mais à intégrer dans notre présent en vue de l'avenir. Voilà, je m'arrête ici. Nous faisons une petite pause et puis des questions pour ceux qui veulent.